Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'abstention que les dernières études d'opinion situent autour de 30% à l'élection présidentielle. C'est un chiffre très élevé pour cette élection qui en général mobilise le corps électoral et reste celle qui, en France, résiste précisément le mieux à l'abstention. Alors comment expliquer que la présidentielle 2017 mobilise si peu à ce jour? Et vous, amis auditeurs, pensez-vous vous abstenir? Et si oui, pourquoi? Où irez-vous bon an, mal an, avec fatalisme ou détermination dans les bureaux de vote le jour J? Intervenez, vous êtes déjà très très nombreux au standard, au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et je salue Gisèle qui nous appelle de Chartres et qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, alors moi j'ai déchiré ma carte électorale l'année où il a fallu qu'on nous demande de voter entre Chirac et Le Pen. Donc pour moi c'était déjà plus possible. Et j'en ai marre qu'on me dise c'est parce que maintenant tu ne vas plus voter donc tu as le droit de rien dire. Enfin, tu n'as le droit de rien dire. Mmh. Et ça m'horripile quoi. C'est pas parce qu'on va pas voter qu'on n'a pas de pensée, qu'on a. Moi je fais en plus partie de beaucoup de milieux associatifs, j'aide beaucoup de personnes, enfin. Et voilà quoi, c'est parce qu'on ne va pas voter, on doit se taire, entre guillemets. C'est ce que j'entends assez régulièrement sur les. J'ai presque envie de dire. Même sur vous, à France Inter, mm-hmm. Parce que j'ai entendu des journalistes le dire, et ça je ne peux pas l'entendre.
Permettez-moi une question, oui. Gisèle, vous avez déchiré votre carte électorale après l'élection Chirac-Le Pen, l'élection qui a suivi le 21 avril, après l'élection où vous n'êtes même pas allé voter au second tour. Ah, vous n'êtes pas allé voter.
Je ne suis pas allé du tout. Du tout. Pour moi, c'était pas possible. La peste et le choléra, c'est pas possible.
Mmh. Et donc, c'était la dernière fois, c'était voilà. Le 21 avril. C'est là que vous
Exactement.
Avez voté pour la dernière fois.
Voilà, voilà. Et c'est vrai que j'ai 53 ans. J'ai une fille qui, elle, va voter. Elle sait, voilà, elle se bat, elle continue ce combat, mais je n'ai même plus de. Elle connaît mes convictions, les gens qui me connaissent connaissent mes convictions, mais à l'heure actuelle, il y a personne pour moi qui est capable de faire que la France se relève. J'ai même plus envie de dire ça parce que c'est des expressions politiques qui m'attendent qui arrivent quoi. Il y a rien. Voilà.
Merci beaucoup Gisèle pour cette question et cette analyse et ce témoignage d'ouverture. J'y ajoute celui de Michel de Brive-la-Gaillarde. Je pense que je serai comme des millions de gens cette fois-ci. Ça va être la première fois de ma vie de citoyenne que je n'irai pas voter. Je me refuse à ce cirque. On ne me refera pas le coup qu'on m'a fait avec Jospin. Alors pour parler de l'abstention ce soir, je salue Antoine Payon. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Journaliste, grand reporter à La Croix, auteur de Voter. C'est abdiqué aux éditions Don Quichotte. À vos côtés se trouve le directeur général de la Fondation Jean Jaurès, que je salue également, Gilles Finkelstein. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on termine ce tour de table avec Céline Braconnier. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, auteur avec Jean-Yves Dormagin de La démocratie de l'abstention chez Gallimard. Qui veut répondre à Gisèle ou dire un mot, en tout cas, Antoine Payon?
Alors, Nicolas Demorand, il y a un sous-titre, c'est « Ranimons la démocratie » pour
moi. Oui.
Et je pense que
mais ça
fait écho à certains propos qu'on a déjà entendus.
On va y venir, évidemment.
Le désarroi qui est exprimé par Gisèle, on l'entend de toutes parts. Et c'est vrai que cette date de 2002, d'ailleurs, marque une sorte de césure. Ça a été mesuré par des travaux de sociologie, notamment ceux d'Anne Muxel. Il y a un basculement. Et il a été mesuré à ce moment-là que 2/3 environ des très très nombreux abstentionnistes de 2002 étaient des gens qui se revendiquaient comme étant dans le coup, politisés, agissant, on l'a entendu là aussi,
dans
les associations. Et il y a quelque chose à partir de cette date qui à la fois sème un trouble énorme, parce que nous sommes tous troublés, par quelque part un renoncement à une habitude, à un rituel, à quelque chose qui a fondé notre idée de la démocratie très longtemps. Et en même temps, quelque chose qui ne passe vraiment plus. Et 2017 marque peut-être encore
une nouvelle césure
de ce point de vue-là.
Céline Braconnier, sur le témoignage et les analyses de Gisèle et Michel, 2002, 21 avril,
oui, alors,
la cassure.
La cassure, alors le premier point, c'est que Gisèle n'est pas très représentative hein, de la majorité des citoyens, puisque le deuxième tour de 2002, après un premier tour qui a approché les 30% d'abstention, c'était la première fois pour une présidentielle, a battu des records de participation. On a voté au-delà de 80%, précisément parce que ce deuxième tour qui opposait Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac était mobilisateur hein, et que la plupart des citoyens ne créaient pas d'équivalence entre ces deux offres politiques. Et on a eu, après 2002, un phénomène de remise en cause hein, du non-vote qui avait été important au premier tour de la présidentielle par beaucoup de monde, ce qui explique que à la présidentielle suivante, il y a eu un record de participation électorale. Donc, il n'y a pas eu de césure en 2002. Au contraire, en 2002, on était dans l'exception. Dès le deuxième tour, il y a eu une remobilisation très forte qui s'est encore accentuée en 2007. Donc après qu'il y ait une partie des citoyens qui soient un peu désenchantés, qui soient en colère contre ce qui est en train de se passer au cours de la campagne, ça ne fait aucun doute. Maintenant, la forme d'expression de cette colère, comme ce qui est le cas pour Gisèle, soit le retrait, soit l'abstention, voilà, c'est encore à prouver. Gisèle dit, on peut s'exprimer politiquement autrement qu'en votant, c'est vrai, mais ça n'est pas ce que montrent pour la plupart des citoyens les données sociologiques dont on dispose. Les données montrent que ceux qui votent s'expriment aussi autrement, mais que ceux qui ne votent pas ont du mal à utiliser d'autres formes d'expression. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est plutôt le vote qui est une manière d'exprimer quelque chose, de l'exprimer publiquement, y compris la colère, plus que
comment,
l'abstention.
Avant de donner la parole à Gilles Finkelstein, comment analysez-vous les 30-32% d'abstention? Je l'ai bien dit à plusieurs reprises, c'est à l'instant T dans les enquêtes d'opinion telles qu'on peut les lire, un tiers environ. Ça, c'est fort quand même, non? Et
oui,
puissant.
C'est fort. Alors, d'abord, il faut un peu relativiser parce qu'on a des instituts de sondage qui proposent des chiffres pour l'abstention qui s'étendent de 25 à 40% depuis 3 semaines. Donc, il faut faire attention. On est encore très loin du scrutin, l'intensité de la campagne n'est pas encore très élevée, l'offre vient de cesser d'être très flottante, hein, ce qui a été le cas jusque-là, donc il faut faire très attention à ces chiffres. Maintenant, je pense qu'on a un certain nombre d'indicateurs fiables qui laissent penser qu'on pourrait avoir une abstention élevée, plus élevée qu'en 2012, ça c'est certain. Sera-t-elle plus élevée encore qu'en 2002? C'est là où je pense qu'on s'avance un petit peu, il faut discuter. Il y a des indicateurs qui laissent penser en tout cas, de différents ordres, notamment des indicateurs INSEE sur les mouvements d'inscription qui se sont déroulés cette année, hein, qui laissent penser qu'on va se dérouler vers 30% d'abstention, ce qui serait de nouveau un record. Hein.
Mmh. Allez, le tour de table se poursuit avec Gilles Finkelstein, vous avez la parole.
Alors Michel dit, cette fois-ci, pour la première fois, c'est ça qui est intéressant, c'est cette fois-ci pour la première fois, parce que pour beaucoup de Français, il y avait une différence entre toutes les élections et l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle était celle qui résistait à cette baisse tendancielle de l'abstention que l'on connaît depuis 20 ans pour toutes les élections. Avec évidemment une exception, celle de 2002, où l'abstention était plus faible. Mais sinon, depuis 1974, en gros, autour de 80% des Français participent à l'élection présidentielle. Et donc, une des questions majeures, y compris pour le rapport de force du premier tour, c'est de savoir si ce taux d'abstention, qui est pour l'instant celui qui est donné par les instituts, se retrouvera le soir du premier tour. Il y a des indices dans l'autre sens, le nombre d'inscriptions sur les listes électorales, là c'est des données tangibles, 850 000 supplémentaires l'année prochaine, l'intérêt pour la campagne qui reste très élevé, mais on a ce chiffre-là. Bon. Et puis, il y a ce que dit Gisèle, cette carte électorale déchirée depuis maintenant 2002. Dans les raisons qui sont invoquées pour justifier l'abstention aujourd'hui, on a posé cette question avec le gros panel, les 15 000 électeurs que l'on suit avec le Centre d'études de la vie politique française et Ipsos. Il y avait trois raisons principales qui étaient évoquées et je ne sais pas à laquelle de ces catégories, et peut-être même à plusieurs d'entre elles, Gisèle peut appartenir. La première, c'est l'insatisfaction par rapport à l'offre. Manifestement, c'est le cas de Gisèle. Le second, c'est l'inutilité, le sentiment que voter ne sert à rien parce que ça ne change rien pour soi. C'est peut-être son cas aussi. Et puis, il y a un sentiment de colère, la volonté d'exprimer son mécontentement. Donc, on peut continuer à penser, on peut continuer à parler, on n'est pas obligé de voter, mais on a le droit de voter aussi.
Allez, on retourne au standard. Je vais redonner la parole à Céline Braconnier dans un instant. On retourne au standard où Sylvie nous attend. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir monsieur.
Bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, ma question portait sur le vote blanc. Parce que j'ai voté blanc au second tour des dernières élections présidentielles. Comme disait Gisèle, je crois.
Oui.
Je ne choisis pas entre la peste et le choléra. Bon, ça me paraît un peu réducteur, mais c'est ce que je veux dire. Et je voterai. Donc au premier tour, je sais ce que je voterai, et je me doute qu'au second tour, je voterai blanc. Quand le vote blanc sera-t-il considéré comme un acte citoyen? Parce que le droit de vote a été, le droit de vote universel, y compris pour les femmes, a été obtenu de haute lutte. Donc je ne veux pas ne pas voter, et l'abstention me paraît une position confuse. Mmh. Et je voterai blanc. Je m'en doute, enfin je suppose qu'au second tour, je voterai blanc.
Merci Sylvie. Des questions sur le vote blanc, il y en a énormément au standard. Hervé de l'Isère, il faut mettre en avant le vote blanc, on n'en parle pas assez. S'il était plus promu, il y aurait moins d'abstention. Romain, par courrier électronique, en donnant une vraie valeur au vote blanc, ne pourrions-nous pas diminuer l'abstention? Et des questions combinées sur le vote blanc et le vote obligatoire aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans le vote obligatoire l'une des réponses à la crise de l'abstention? Antoine Payon.
Je pense qu'il faut revenir quand même sur 2007. S'il y a eu un taux de participation très important en 2007, des analyses ont dit que c'est parce que Nicolas Sarkozy, un candidat, avait apporté beaucoup de passion dans la campagne électorale et que ça avait eu son effet. Et qu'il y a donc plutôt une pente depuis le milieu des années 70, mais qui s'accélère, d'une descente de plus en plus importante vers l'abstention, d'une montée vers l'abstention. Ça dépend comment on se situe. La colère qu'exprime l'abstention, je viendrai sur le vote blanc après, c'est pas une colère contre les candidats d'aujourd'hui. C'est une colère qui est beaucoup plus profonde. D'ailleurs, je pense que les travaux que vous avez menés vous-même en sociologie montrent qu'il y a une colère contre une situation sociale, économique. Il y a une colère contre un système bien au-delà des personnes qui le représentent. Et donc, faut pas minimiser ce qui est mesuré aujourd'hui par le CEVIPOF, qui est un sondage extrêmement massif, comme il a été dit, et qui est de mars, de début mars, et non pas les sondages précédents, 25 à 40%, qui, eux, datent du mois de février et sur des échantillons beaucoup plus faibles. Il faut recadrer un peu les choses du point de vue, disons, des faits et de l'analyse des faits. Pour le vote blanc est encore une participation. Beaucoup de gens disent « Ah, j'ai commencé par voter blanc et un jour je me suis abstenu ». Comme si c'était une sorte de palier de décompression, de sortie de quoi ? De la démocratie représentative. Et il y a peut-être là une question plus de fond que la question de 2017, voire même que la question de la Ve République, que les Français commencent à se poser. C'est quoi notre modèle de démocratie ? Beaucoup d'excellents travaux ont porté, par exemple, je dis, le tirage au sort comme moyen d'avoir des personnalités politiques, un personnel politique tiré au sort et qui aura peut-être plus de compétences et surtout moins de corruption que les professionnels élus de la politique.
Permettez-moi une question, Antoine Payon. Voter, c'est abdiquer, c'est le titre de votre livre, le sous-titre aussi est important. Vous allez voter blanc, vous abstenir pour la présidentielle. Je vous pose la question directement.
Pour la première fois, je vais m'abstenir. Et je ne suis pas un jeune électeur. J'ai 58 ans pour ne rien cacher.
Ça va.
Et j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Mmh. J'ai voté en mai 1981.
Et vous allez de manière très politique. Qu'il faut vider le système de sa substance.
C'est un acte qui peut être éventuellement symbolique si nous sommes très peu nombreux. Ça sera un acte qui aura son poids politique si nous sommes très nombreux. Qui veut dire il faut passer à un autre modèle de république. Rien ne sert de choisir celui-ci ou celle-là, n'en parlons pas, vous imaginez bien pour moi. Rien ne sert aujourd'hui de maintenir un système qui a produit le Front National, je l'affirme, et je ne suis pas le seul, a produit une véritable décadence de notre république. Il y a aujourd'hui un seuil qu'il faut que nous franchissions tous.
Céline Braconnier, à la fois sur ce que vient de dire Antoine Peillon, qui est une forme, si je ne m'abuse, très réflexive et très politique de l'abstention, et sur le vote blanc comme alternative peut-être pour remobiliser les abstentionnistes.
Je pense que l'abstention militante dont vient de parler Monsieur Peillon, exactement comme le vote blanc, ça renvoie à une catégorie particulière d'électeurs qui sont des électeurs politisés. Et qui choisissent de s'exprimer de cette façon-là, même si la difficulté vis-à-vis de l'abstention comme forme d'expression, c'est que elle a besoin d'être interprétée a posteriori par ceux qui accèdent aux médias, parce que c'est pas du tout évident que tous les abstentionnistes soient d'accord sur le message que leur abstention est censée porter.
Même les abstentionnistes sont divisés.
Et exactement, il n'y a pas de parti de l'abstention. C'est une expression qui est très problématique parce qu'elle laisse penser qu'il y aurait comme ça des millions de citoyens qui choisiraient ensemble de porter un message se tenant en retrait.
C'est quand on dit le premier parti de France et celui des abstentionnistes.
Voilà. Ouais. Donc pour recadrer un petit peu les choses, que moi aussi j'ai envie de recadrer un petit peu les choses, il y a une abstention qui est motivée politiquement et qui peut-être, pour ce scrutin, pour cette présidentielle, sera plus importante qu'elle ne l'a été jusque-là. C'est vrai que dans les milieux politisés, qui sont des milieux où le vote constant était la norme jusque-là, on voit se diffuser un discours plutôt favorable au retrait. Donc, il peut y avoir cette fois-ci une abstention politique de plus forte ampleur qu'on en enregistre habituellement, notamment pour une présidentielle. Mais il y a quand même peu de chances pour qu'en quelques mois, il y ait une transformation radicale de notre pays. Et donc, il y a quand même des déterminants sociaux de l'abstention qui sont extrêmement forts, qui ont encore été mis en valeur en 2012. Les ouvriers votent évidemment beaucoup moins que les cadres supérieurs. Les diplômés votent évidemment beaucoup plus que ceux qui ne sont pas diplômés. On a beau, dans certains sondages, voir se dessiner des logiques qui ne seraient pas, qui seraient contraires à ça. Mmh. Dans le sondage du CVPOF, on nous dit que le diplôme joue plus et que il va y avoir une participation équivalente ou une abstention équivalente du côté des diplômés et du côté de ceux qui ne le sont pas. Ça serait une grosse surprise sociologique, hein, parce que ce qui maintient à l'écart des urnes, c'est avant tout une forme d'indifférence teintée de désenchantement ou teintée de colère, mais c'est avant tout la distance aux institutions, la distance aux politiques, et ce sont toujours les mêmes catégories sociales qui restent à l'écart des urnes. Donc oui, il y a de l'abstention politique, mais attention, ça peut dissimuler une abstention qui est avant tout alimentée par des déterminants sociaux, des situations sociales, des formes de fragilité qui tiennent à l'écart.
Ça, c'est un point important. Dans l'enquête du CVPOF, j'ai noté aussi, je ne sais absolument pas si c'est vrai, que les célibataires s'abstenaient plus que les gens en couple. Gilles Finkelstein, vous confirmez ? Scientifique, hein, bien sûr.
J'ai noté la même chose, sans avoir nécessairement d'explication.
Oui, d'explication. Oui, alors Céline en a une. Céline oui, Braconnier, expliquez-nous, et Antoine Peillon aussi.
Oui, parce que c'est un sujet sur lequel il y a des travaux sociologiques très, très passionnants. Le couple, le vote, c'est un acte collectif qui se pratique en groupe, qui se pratique avant tout en famille et avant tout en couple. Et les taux de participation qu'on enregistre traditionnellement à la présidentielle en France, qui sont bien plus élevés qu'aux autres scrutins, s'expliquent en partie par la capacité de la campagne présidentielle, par sa forte intensité médiatique notamment, à activer des mécanismes d'entraînement au sein des familles. Donc les gens qui sont pas très politisés se laissent entraîner par ceux qui le sont un peu plus et qui suivent plus que la campagne.
Et ça fait une dynamique.
Et voilà, et c'est des dynamiques qui sont très difficiles à saisir à un mois de l'élection, qui peuvent se saisir deux semaines, trois semaines avant l'élection, mais qui fonctionnent pas du tout sur de la politisation, qui fonctionne à de l'entraînement. C'est des dynamiques de groupe. Mmh. Et c'est très fort. On sait très bien que les personnes isolées votent beaucoup moins que les personnes en couple, par exemple.
Gilles Finkelstein.
Sur la question de Sylvie, sur le vote blanc. Elle a décidé de voter blanc et ça fait un moment. Ce qui est frappant, c'est qu'elle n'est pas la seule. Quand vous regardez depuis maintenant une quinzaine d'années, le nombre de votes blancs, notamment au second tour de l'élection présidentielle, est très important. Deuxièmement, c'est une vieille revendication qui revient régulièrement de « est-ce que le vote blanc doit, peut compter ?» Il y a eu une réforme dont on parle peu en 2014 qui fait que le vote blanc n'est plus assimilé à un vote nul. C'est-à-dire qu'il est comptabilisé et il est comptabilisé séparément. Le pas qui n'a pas encore été franchi, c'est de considérer que le vote blanc est un suffrage exprimé. Si tel était le cas, le président de la République, vraisemblablement, serait élu non pas avec une majorité absolue, mais avec une majorité relative. C'est vrai pour le président de la République, ça serait vrai davantage encore pour les autres élections. Ça nécessiterait un changement de la Constitution. C'est surtout un changement symbolique qui serait très important, mais c'est une étape qui peut être franchie et qui devrait être franchie si, d'aventure, on allait vers le vote obligatoire. On ne peut pas à la fois avoir le vote obligatoire et considérer qu'un électeur qui est insatisfait de l'offre électorale n'a pas la possibilité d'exprimer son choix par un vote blanc. Mmh.
On repart au standard. Clément nous appelle de Saint-Étienne et attend déjà depuis 20 minutes. Hein. Merci de ne pas vous abstenir, Clément, d'intervenir sur Inter.
Oui, bonsoir. Voilà, donc moi, c'est ce dont je voulais parler, c'est du fond. Parce que vraiment, dans cette campagne électorale, voilà, comme, pardonnez-moi l'expression, mais on a plus l'impression d'assister à un spectacle de guignol plutôt qu'à... et on ne voit pas de... ou difficilement de propositions véritables émerger. Enfin, à droite, voilà, ce sont les affaires. À gauche, une guerre d'égo. Enfin, on ne voit rien qui... Enfin, peu
qui suscite l'intérêt. Donc, vous allez vous abstenir, Clément ?
Eh bien, alors, c'est très probable. Donc, au début, j'avais vraiment un candidat en tête. Mais là, à force, j'ai envie de dire, ça lasse. Et donc, du coup, finalement, la solution sur laquelle je me dirige, donc, c'est l'abstention, effectivement. Mmh.
Merci, Clément, pour cette question. Au fond, sur l'offre politique, c'est ce que vous disiez, Céline Braconnier, tout à l'heure. Il y avait parfois des regains d'intérêt, ce que vous disiez également, Antoine Payon, lié à l'offre politique. Bon, ben voilà, là, elle est nulle, nous dit en substance Clément, je n'irai pas voter.
Et alors, ce serait intéressant Antoine de savoir Payon. Si Clément est célibataire ou s'il vit en couple. Parce que l'idée que l'acte de vote est un acte collectif, ça le positive, sauf que des études montrent que ce collectif est souvent un collectif de culpabilisation, est un collectif de conformisme. Et que souvent, et c'est ça qui est en train aussi de s'évaporer, eh bien, il y a une indication de vote obligatoire dans les collectifs qui, quand on est un peu isolé ou seul, évidemment, n'a pas la même force. Aujourd'hui, il est, à mon avis, pas juste de dire que l'abstention est encore mélangée, qu'il n'y a pas de parti de l'abstention. En 2004 déjà, une étude qui est celle de Anne Muxel, sociologue aussi, qui a travaillé à fond sur le sujet, notait qu'en 2002, 2/3 des abstentionnistes étaient ce qu'on appelle des abstentionnistes dans le coup, des abstentionnistes politiques, ce qui n'était pas le cas en 1995. Donc le phénomène dont on voit peut-être un peu l'explosion, disons aujourd'hui, est un phénomène qui a déjà une certaine ancienneté et qui a aussi une vraie logique politique. Je pense qu'il y a, excusez-moi pour ça, dans beaucoup de discours, y compris de valeurs scientifiques, parfois une disqualification. Il y a une disqualification sociologique, justement. Et on dit « ce sont les ouvriers ». Ce sont ceux qui ne sont pas instruits. Il semble que les travaux du CEVIPOF tout récent commencent à aussi contester cette logique qui est celle de l'éducation. Il y a peut-être un petit peu de surplomb, voire parfois de condescendance sur ces personnes qui, dans des situations sociales différentes des nôtres, effectivement s'abstiennent, mais le font peut-être avec beaucoup de conscience, beaucoup peut-être même plus de conscience vive, parce qu'ils vivent les choses plus vivement, que tous ceux qui se satisfont du système. Alors certes, c'est un peu inconvenant de dire ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça n'est pas très porté dans les médias, où un phénomène mesuré par des sondages comme étant extrêmement massif n'a pas voix au chapitre dans la campagne. Pourquoi n'est-ce pas un sujet de campagne électorale du président de la République en 5e République ?
Céline Braconnier.
Oui, alors en réalité, on a des données extrêmement solides de l'INSEE hein, qui sont construites à partir de la participation effective par la consultation des listes d'émargement, qui montre que le diplôme est un déterminant extrêmement important de l'abstention.
Ou donc, c'est pas du, du mépris de classe ou de la condescendance.
C'est pas du mépris de classe, c'est vouloir comprendre le monde tel qu'il est pour pouvoir éventuellement le changer. Mais il faut faire la distinction entre du militantisme favorable à des formes d'expression, que ce soit l'abstention, le vote blanc ou le vote, et la réalité telle que nous permet de la penser l'outil sociologique. Et en l'occurrence, on n'a pas besoin de recourir à des études qui passent par des déclarations. On sait très bien que les sondages constituent un bon outil, un outil intéressant pour certains comportements, mais que pour les comportements de participation ou d'abstention, ils présentent un certain nombre d'inconvénients. Là, on a l'INSEE, donc de la statistique publique, avec des enquêtes sur 40 000 personnes à chaque élection présidentielle, à chaque élection législative, qui nous permet d'établir un certain nombre de réalités.
Alors, lesquelles ?
La réalité, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui votent et qui s'abstiennent, et que ceux qui sont moins diplômés s'abstiennent beaucoup plus que ceux qui le sont.
Et vous ne pensez pas que parfois les plus diplômés sont plus aliénés que ceux qui le sont moins ?
Mais ce n'est pas la question.
Si, c'est la question, parce que c'est une question politique. On parle de politique. Et là, vous répondez par des facteurs sociologiques qui n'ont pas forcément directement à voir avec ce qu'on appelle la citoyenneté. Il suffit de se tourner vers ce que sont les manifestations aujourd'hui, de se tourner vers les associations. Est-ce que il n'y a que des diplômés ? Est-ce que les personnes les plus modestes ne participent pas dans notre pays à l'œuvre collective ? C'est une question, parce que cette disqualification de l'abstention par le fait que ce sont des non-diplômés ou des moins diplômés qui sont abstentionnistes doit vous interroger, doit tous nous interroger, parce que c'est peut-être un facteur justement du rejet du système.
Céline Braconnier.
Je pense qu'il faut éviter, quand on essaye de penser scientifiquement le monde, de disqualifier ou d'utiliser un vocabulaire moral. Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il s'agit d'un constat. Le constat, c'est que selon qu'on a plus ou moins de diplômes, on s'abstient plus ou moins ou on participe plus ou moins. Donc ce n'est pas une disqualification. Mais,
vous pourriez parler des niveaux économiques aussi.
Tout à fait. Ils vont dans le même sens.
Le premier grand facteur de l'abstention aujourd'hui, c'est le chômage. C'est la précarité.
Non, c'est l'âge et c'est le diplôme, monsieur.
Non, vous l'affirmez. Mais le chômage en est un aussi. De la situation socio-économique est fondamental dans le phénomène de l'abstention ou d'autres protestations politiques.
Finkelstein.
Alors, je reviens à Clément, notre auditeur patient. Qui s'inquiète de l'absence de fonds dans cette campagne, et il n'est pas le seul. Le grand paradoxe, c'est que c'est sans doute la campagne qui a commencé le plus tôt, puisque Alain Juppé a déclaré sa candidature à cette élection en août 2014, qu'on a eu une succession d'élections primaires, d'affaires, et que à 40 jours du scrutin, on a le sentiment que la campagne n'a en réalité pas réellement commencé. Alors, aujourd'hui même, François Fillon a présenté son nouveau programme, Emmanuel Macron avait présenté le sien il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen le leur il y a quelques temps, bientôt Benoît Hamon. L'espoir, c'est que la campagne finisse par commencer, et surtout qu'elle commence avant le premier tour. Ça serait quand même une bonne chose, parce que en réalité, cette campagne, elle intéresse parce qu'elle est regardée comme une série télévisée, mais elle ne mobilise pas parce que ce n'est pas une vraie campagne électorale. Aucun thème n'a structuré le débat depuis le début.
Au standard, François nous appelle de Marseille. Bonsoir François.
Oui, bonsoir. Je suis content de pouvoir intervenir. Voilà, je comprends bien les futurs abstentionnistes, mais ceci étant, nous avons affaire à une élection. Et une élection, c'est des gens qui mettent des bulletins dans l'urne, et celui qui a le plus de bulletins gagne. Donc la seule façon, si on s'abstient, si on ne prend pas part au vote, en s'abstenant, ou en votant nul, ou en votant blanc, en fait, on vote pour celui qui va gagner. La seule façon de ne pas voter pour celui qui va gagner, c'est de voter pour quelqu'un d'autre. Ou de voter pour celui qui va gagner si celui-là convient. Et donc, je m'assurge un peu quand on parle de l'abstention, parce que la seule façon de réagir positivement au fait que l'abstention augmente, c'est j'intime les gens à adhérer à un parti politique pour effectivement élargir le spectre des choix possibles, et de permettre au plus grand nombre de voter, mais avoir une attitude positive, et non pas, comme je l'entends encore, faire penser que quand on met un bulletin vote, quand on met un bulletin dans une urne, c'est un acte individuel qui semble pour certains tellement difficile à faire qu'ils en oublient le fait que s'ils ne votent pas, en fait, ils votent pour celui qui va gagner ou celle qui va gagner.
Merci François pour cette question et ce raisonnement qui me semble viser Antoine Payon. Comment y répondez-vous?
Je voudrais juste prolonger.
Alors Gilles Finkelstein d'abord et peut-être Antoine même, Payon après.
Et peut-être expliciter ce que François a très bien dit. L'abstention peut être un choix réfléchi et c'est un choix évidemment respectable et donc il n'y a pas de jugement moral à avoir. Qu'il y ait une insatisfaction par rapport à ce qu'est l'offre électorale, c'est évidemment quelque chose de très répandu. Qu'il y ait une insatisfaction par rapport à la manière dont fonctionne notre démocratie, et y compris la manière dont fonctionnent ou dont sont équilibrées ou déséquilibrées nos institutions, là aussi c'est une insatisfaction qui peut être partagée. Cette élection a malgré tout une caractéristique, c'est qu'elle se situe dans un contexte particulier où on a une probabilité extrêmement forte d'avoir Marine Le Pen qui est qualifiée au second tour. Et quand on regarde combien de voix ont été nécessaires pour être élu président de la République depuis une vingtaine d'années, le seuil qui a été nécessaire précédemment ne peut pas être atteint par Marine Le Pen. Mais elle peut être élue. Elle peut être élue par indifférence, par négligence, par laisser-faire. Et donc ça aussi, c'est la responsabilité, pour le coup, qui n'est pas une responsabilité morale, mais qui n'est pas un choix d'ordre moral, mais qui est d'ordre politique, qui est un choix qui sera peut-être celui devant lequel seront les citoyens après le premier tour de cette élection.
Antoine Payon, que répondez-vous à François ? Si on s'abstient, si on vote blanc ou nul, on vote pour la personne qui va gagner.
Non. Ceux qui votent pour la personne qui va gagner, ce sont ceux qui votent pour la personne qui va gagner.
Et ceux qui votent contre,
etc. Ceux qui s'abstiennent ont des motifs autres, qui sont peut-être d'un autre ordre et d'un autre niveau que la personne qui va gagner ou celui qui s'y oppose.
Il a dit quelque chose
qui m'intéresse beaucoup. Il a parlé de parti politique. Oui. Il a dit adhérer à un parti politique. Or, c'est justement ce qui n'est plus possible. Les primaires, en l'occurrence, ont détruit, et on le voit, puisque tous ceux qui sont issus des primaires sont aujourd'hui les plus contestés dans leur propre parti ou dans leur propre sphère politique. Que ce soit Benoît Hamon, c'est tout le monde s'enfuit. Les choses qui ont même été signées, des contrats qui ont été signés pour les participants des primaires, aux primaires, ne sont plus valables. Et quant à François Fillon, n'en parlons même pas. Il met le doigt sur une telle déliquescence de notre structuration républicaine que aujourd'hui même adhérer à un parti politique n'a plus aucun sens.
Oui, mais ne piochez pas dans la question de François. Il vous en adresse une très directement. Si l'on s'abstient, si on vote blanc, si on vote nul, vote pour la personne qui va gagner. Non. Il y avait un aspect parti politique. Je suis entièrement d'accord.
Et on ne favorise pas le Front National. Et peut-être parmi les plus résistants au Front National parce que ce qui a fait depuis 1982 le Front National, ce sont des gens qui ont été élus. C'est François Mitterrand le premier qui a favorisé, on le sait comment, le Front National. Et ce sont les partis dits de gouvernement qui n'ont jamais agi véritablement contre le Front National. Voter pour des gens qui appartiennent à des partis de gouvernement pour s'opposer au Front National est devenu une absurdité qui est une évidence dans l'esprit d'énormément de citoyens, d'un très très grand nombre de citoyens.
Céline Braconnier.
Non, ce qui me paraît intéressant dans plusieurs interventions d'ailleurs de vos auditeurs précédemment, c'est de constater que la probabilité forte d'une présence du candidat, de la candidate du Front National au deuxième tour, n'est manifestement plus suffisante pour susciter une sorte de réflexe de mobilisation. Et ça, c'est un indicateur sans doute d'une abstention élevée pour cette présidentielle. Quand on est dans des territoires qui vote à gauche quand il vote, et qu'on connaît bien ces territoires, qu'il est évident que Marine Le Pen fait beaucoup moins peur aujourd'hui que son père en 2002, et que la probabilité qu'elle soit au deuxième tour n'est plus suffisante pour que les gens se lèvent, se mobilisent. Ça fait encore un peu sens dans des territoires de gauche, je pense notamment aux quartiers populaires des grandes villes, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a plus plus une mobilisation immédiate anti-Front National comme on pouvait l'observer il y a encore quelques années. Donc ça, c'est un indicateur évident d'une mobilisation qui peine à se faire. La présence de Marine Le Pen est plus suffisante pour faire voter les gens.
Gilles Finkelstein, et puis encore un mot à Antoine Payon.
Je ne veux pas anticiper sur ce que pourra être un débat de l'entre-deux-tours, alors que le premier tour n'a pas eu lieu. Là où Cécile Braconnier a raison, c'est que la présence possible de Marine Le Pen au second tour n'est pas un motif suffisant pour mobiliser, pour aller voter au premier tour. La question est, qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux-tours? Est-ce qu'il y aurait un sursaut de mobilisation? On a une expérience concrète et une expérience récente qui sont les élections régionales sur lesquelles le taux de participation au premier tour, c'était il y a un an, sur lesquelles le taux de participation au premier tour avait été faible, et y compris dans des régions dans lesquelles le Front National est extrêmement fort et où Marion Maréchal Le Pen d'un côté, Marine Le Pen de l'autre ont obtenu plus de 40%, 44% des voix au premier tour, où le candidat républicain, enfin du parti Les Républicains, qui était 15 points derrière et qui n'était pas le candidat pour lequel il était le plus facile de voter quand on habite en PACA pour aller voter Christian Estrosi quand on est un électeur de gauche, c'est pas évident. 8 points de participation de plus dans l'entre-deux-tours et 75% de ces électeurs-là ont voté à droite, ont voté contre l'extrême droite. Donc il reste, c'est sans doute pas de même nature, c'est peut-être pas de même ampleur, mais il reste un sursaut de mobilisation contre le Front National lorsque celui-ci est en capacité d'accéder au pouvoir.
Antoine Payon.
Alors 2017 et l'entre-deux-tours nous montrera, plutôt que nous démontrera, s'il n'y a pas aussi une érosion finalement de ce réflexe qui a joué.
Vous en êtes une illustration.
Je pense ne pas être le seul. Il est intéressant dans le travail du CEVIPOF et de la Fondation Jean Jaurès de voir que c'est dans l'électorat centriste, a priori, que le trouble aujourd'hui est le plus important. Et que c'est dans l'électorat frontiste qu'il y a le plus de certitudes de vote. C'est pour ça qu'un certain nombre appellent les électeurs potentiellement frontistes à s'abstenir. Parce que les motifs pour lesquels ils s'abstiendraient pourraient être assez proches du motif pour lequel ils protesteraient par le bulletin Front National.
Céline Braconnier, est-ce qu'il y a eu véritablement hausse du nombre d'inscrits sur les listes électorales? Je vous ai vu tiquer tout à l'heure quand Gilles Finkelstein le disait.
Oui, oui. Non, on a plutôt des indicateurs d'une situation qui est proche de celle de 2012, voire inférieure. Parce qu'un chiffre plus 800 000, ça ne veut rien dire si on ne le compare pas à d'autres chiffres. Par rapport à la dernière présidentielle, on a plutôt du côté des inscriptions volontaires une baisse du nombre de sorties de la non-inscription. Dans tout, quel que soit le critère qu'on prend, les cadres sup se sont moins qui étaient pas inscrits sont moins sortis de la non-inscription qu'en 2012. C'est pareil pour les ouvriers, c'est pareil pour les diplômés. Donc dans toutes les catégories, on a un taux d'inscription après déménagement moins important. On a 2,5 millions de personnes qui se sont réinscrites après avoir déménagé contre 2,7 millions en 2012. Or a priori il n'y a pas eu de moins de déménagement. Donc ça veut dire qu'il y a une proportion encore importante de la population qui sera mal inscrite, donc qui devra franchir une grande distance pour voter. On sait que cette population-là s'abstient beaucoup plus que ceux qui peuvent voter à côté de chez eux. Donc non, du côté de l'inscription, contrairement à ce qu'on avait annoncé à Noël où on parlait de rush, les données INSEE qui sont parues en début de semaine montrent qu'il faut vraiment raison garder et qu'on a plutôt des indicateurs d'un mouvement pas très réjouissant.
Il nous reste 40 secondes. Gilles Finkelstein, un mot?
Oui, juste d'un mot pour compléter. En fait, ça dépend par rapport à quoi on compare. Si c'est par rapport aux élections présidentielles précédentes, et notamment à celle de 2012, Cécile Braconnier a raison, le nombre d'inscriptions supplémentaires est deux fois moins important. En revanche, si on compare aux années précédentes, qui étaient des années évidemment moins intenses, puisqu'on n'était pas juste à la veille d'une élection présidentielle, là, de ce point de vue-là, il y a un sursaut et un nombre d'inscriptions beaucoup plus important.
Allez, je vous remercie tous les trois. Antoine Payon, journaliste, grand reporter à La Croix. À lire, donc, ce livre, Voter, c'est abdiquer, aux éditions Don Quichotte. Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Auteur, avec Jean-Yves Dormagin, notamment de La démocratie de l'abstention chez Gallimard. Merci, amis auditeurs, vous étiez extraordinairement nombreux au standard ce soir.